Quatrième temps de notre série d'émissions consacrée aux expositions d'histoire que l'on peut visiter ces temps-ci dans différents musées parisiens. Nous avons débuté cette série d'émissions en suivant les chemins des aventuriers des mers tels qu'ils sont présentés dans une exposition de l'Institut du Monde Arabe ces temps-ci à Paris. Et nous la terminons, cette série, ce jeudi, en suivant chemins fluviaux, routiers et caravaniers qui traversent en tous sens l'Afrique et rejoignent les continents voisins. Ce matin, Séverine Yatar nous guide en effet à travers l'exposition L'Afrique des routes au musée du Quai Branly à Paris, en compagnie de Gaël Beaujean, commissaire de l'exposition, responsable de collection Afrique, et de Catherine Kokrividrovic, historienne et commissaire associé. Mais auparavant, comme chaque jeudi, continuons notre parcours dans l'histoire telle qu'elle s'enseigne ces temps-ci dans nos écoles, dans nos collèges et dans nos lycées, c'est-à-dire notre feuilleton La Fabrique de l'Histoire scolaire par Séverine Yatar. Aujourd'hui, 17e épisode, Séverine Yatar rencontre Fabien Jouan, enseignant qui a rédigé quelques chapitres dans un manuel d'histoire et de géographie de 5e.
Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie.
Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu.
Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez?
Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu.
Est-ce que vous me voyez?
La fabrique de l'histoire scolaire.
Vous m'écoutez, s'il vous plaît?
Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre.
Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui.
Fabien Jouan enseigne au collège Edgar Varèse dans le quartier de la Villette à Paris. Il collabore également à la rédaction d'ouvrages scolaires. Dans le manuel de 5e, édité par Bordas, à l'occasion des nouveaux programmes, il a notamment rédigé un chapitre consacré au pouvoir royal dans le royaume de France du XIe au XVe siècle.
Au lieu d'avoir une page de droite et une page de gauche, hein, on a une page du haut et une page du bas. Voilà. L'idée, c'était que généralement, les élèves ont un manuel par table, donc un manuel pour deux. Voilà. Et que donc, du coup, en mettant le manuel entre les deux et en l'ouvrant de cette manière, on donnait plus de visibilité au document.
Alors comment ça se passe, Fabien Jouan ?
Eh bien, il y a un collègue qui va coordonner l'ouvrage. Avec l'éditeur, ils forment une équipe, généralement d'une dizaine de collègues. Il faut qu'on soit répartis dans plusieurs académies. Ça se prépare un an à l'avance. On distribue les chapitres entre les collègues. On se réunit. On nous présente le projet de maquette. Et ensuite, chacun chez soi, on travaille sur la rédaction des chapitres. Il y a un échange avec le directeur d'ouvrage, puis avec l'éditeur pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer, de modifier un document. Ça nous occupe énormément pendant bien 6 mois, même un peu plus, hein, jusque la publication qui intervient donc généralement au retour des vacances de Pâques de l'année qui précède la mise en œuvre des programmes.
Alors, il faut préciser que ces manuels, ils sont très beaux, hein. Beaucoup d'importance donnée aux documents.
Alors, on peut dire qu'effectivement, la place accordée à la page leçon a diminué et on donne une place de plus en plus importante aux études de documents, mais je dirais également aux exercices en lien avec le numérique, avec l'histoire des arts.
Alors, on va quand même regarder page 72, donc votre chapitre. Là, on a une miniature du XIIIe siècle, hein, des chroniques de Saint-Denis.
Voilà, c'est la double page d'ouverture. Alors, c'est une double page qui a une fonction un peu particulière où on va essayer de privilégier l'impact visuel, hein, en fin de compte. Donc, de beaux documents. Avec belles couleurs, alors qui ont un sens pédagogiquement qu'on va pouvoir étudier en classe, mais ça sert, si vous voulez, à mettre un peu en appétit pour le reste du chapitre. Alors, ça doit aussi faire référence à des dossiers du chapitre qui sont développés. Voilà.
Et donc là, ensuite, on a des cartes.
Voilà, donc on essaie de privilégier donc, les repères à la fois chronologique à travers une frise et spatiaux avec une carte sur l'évolution du royaume de France du 10e au 15e siècle. Voilà. Pas trois cartes en une d'une certaine manière. Voilà.
Et puis là, je me repère, document 1, document 2, des questions aussi pour...
Alors c'est l'idée de construire un certain nombre de repères donc chronologique, au fur et à mesure du déroulement du programme.
Voilà. Donc, alors, il y a du vocabulaire, évidemment, qui est surligné, forteresse, vassal, domaine royal.
Alors, il faut du texte, mais pas trop. On essaie de mettre un texte par page. Généralement, on évite d'en mettre trop. Il y a un document historique, généralement une miniature, et puis une carte, bien souvent.
Une citation aussi, notamment des documents littéraires. Enfin,
oui, tout à fait. Donc, on essaie de ne pas dépasser 6 documents par double page. Avec un certain nombre de définitions et de pistes d'activité. Avec une nouveauté qu'on a retrouvée là aussi dans d'autres manuels, le développement de nouvelles démarches, notamment le développement des tâches complexes. C'est-à-dire, on va essayer de scénariser une mission. Alors là, en l'occurrence, alors je ne m'en souviens plus trop. Avec ta classe, tu es chargé de rédiger le texte donc d'un panneau qui sera situé aux alentours de Château-Gaillard pour guider les visiteurs. Donc tu dois rédiger un panneau. Il s'agit d'abord de retracer les étapes du conflit qui oppose au début du XIIIe siècle Philippe Auguste, roi de France, à son vassal Jean sans Terre, duc de Normandie et roi d'Angleterre. Il faudra ensuite expliquer comment sa victoire en Normandie a permis à Philippe Auguste d'étendre son domaine royal et d'affirmer son domaine royal et son autorité. Voilà. Alors l'idée, c'est justement de travailler à travers ces doubles pages du manuel ce qu'on appelle la différenciation pédagogique. Alors, on voit bien que dans une classe de collège, il y a généralement une très forte hétérogénéité des publics d'élèves. Il y a des élèves qui vont être parmi les plus avancés, qui vont être capables de rédiger le panneau en se basant uniquement sur les documents et en les analysant par eux-mêmes, etc. D'autres vont avoir besoin d'être beaucoup plus guidés. Donc le professeur va pouvoir donc utiliser ce dossier de documentaire et jouer sur un certain nombre de consignes plus ou moins précises en fonction du niveau d'élève. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'esprit de la réforme, essayer de différencier les types d'activités qu'on va proposer aux élèves en fonction de leur niveau.
Voilà pour ce 17e épisode du feuilleton La Fabrique de l'Histoire scolaire. Comme tous ces feuilletons, vous pouvez le télécharger séparément de l'émission du jour et garder ainsi avec vous l'ensemble de cette série. Il est signé Séverine Yatard et Véronique Samouilov. Nous partons maintenant en visite pour la dernière émission de cette série d'émissions consacrée aux expositions d'histoire que l'on peut voir à Paris ces temps-ci, en compagnie de Séverine Yatard, et nous partons pour le Quai Branly.
Alors nous sommes au musée du Quai Branly pour cette exposition qui vient d'ouvrir, l'Afrique des routes, qui veut en fait d'une certaine manière aller à l'encontre des idées reçues sur une Afrique qui aurait été un continent fermé, clos sur lui-même. Donc ici, au contraire, on a voulu démontrer, les deux commissaires d'exposition sont à côté de nous, que c'est un continent qui a vécu beaucoup d'échanges, des échanges qui se sont faits à travers des objets, toutes sortes d'objets qui ont circulé, des produits alimentaires, de l'ivoire, de la monnaie, du textile, des hommes, des animaux, mais aussi de la culture immatérielle, comme par exemple la religion. Et donc ces circulations et ces routes ont aussi changé au cours du temps, c'est ce que vous avez voulu mettre en avant. Donc Gaëlle Beaujean, vous êtes commissaire de cette exposition et responsable des collections africaines au musée du Quai Branly. Et vous, Catherine Cochry-Vidrovitch, vous êtes grande historienne de l'Afrique, professeure émérite à Paris 7, et vous êtes aussi co-commissaire de cette exposition. Exposition que vous avez choisi de traiter justement un peu par thématique de route. Les routes commerciales, les routes fluviales, les routes coloniales. Donc, pour commencer, l'idée de cette exposition et pourquoi, Gaëlle Beaujean ?
L'Afrique a une histoire. Et donc, on va suivre tout un parcours qui va consister à utiliser et à montrer des œuvres de qualité. Donc, en termes d'esthétique, il y a vraiment une recherche qui a été faite pour avoir de très beaux objets, qui sont autant de sources qui vont nourrir cette enquête, donc qui est l'étymologie du mot histoire, et témoigner de l'histoire des Afriques. On a des contacts très anciens du côté de l'océan Indien, Dans l'Antiquité, on avait les routes du Nil, les routes transsahariennes, puis ensuite les routes atlantiques. Donc, différents réseaux, en fait, se sont progressivement mis en branle pour alimenter ces contacts. Donc, pour les routes et les moyens de transport, nous évoquons notamment le portage animal, le cheval d'abord, puis le dromadaire qui s'est imposé au 200 de notre ère, et le cheval qui s'était imposé 3000 ans avant notre ère.
Oui, c'est très ancien le cheval. Oui. Voilà. Et mais donc, ils ne traversaient pas le Sahara tout seul. Quand même.
Et donc là, nous sommes devant un cavalier dogon du XVIe siècle. Alors le terme dogon, à mon avis, ne correspond pas à une unité culturelle nécessairement, comme on a bien voulu l'affirmer pendant longtemps, puisqu'il y avait ces découpages ethniques qui étaient erronés. Quand on comprend l'histoire dogon, quand on l'aborde, on s'aperçoit que ce sont des cultures très différentes qui ont trouvé refuge dans un lieu qui était la falaise de Bandiagara, et notamment les cavaleries avec le mythe de l'histoire du guerrier pour le nord en ce qui concerne le nord de la falaise de Bandiagara, a permis à différentes cultures de se réunir sur ce lieu qui était le plateau, la plaine et la falaise de Bandiagara. Le cavalier que nous voyons donc est ancien et d'un style qui correspond à un style plutôt du nord. Là aussi, on est sur un petit territoire et stylistiquement, on est très troublé par la variété des styles dogons, qui est bien le reflet en fait de ces différentes cultures. Et les linguistes, justement, vont nous expliquer qu'encore aujourd'hui, on a 14 dialectes différents sur un territoire qui est finalement pas bien grand.
Oui, Catherine Cochry.
Oui, les dogons, en réalité, se sont réfugiés dans ces falaises de Bandiagara parce qu'ils refusaient l'islam, très probablement. Donc, en plusieurs vagues, comme le disait Gaël, et ça n'est pas du tout une population autochtone des falaises qui a inventé comme ça, depuis le début, de vivre dans des grottes et des cavernes. Mais c'est quelque chose qui... c'était une zone refuge. Le cheval, lui, était très prisé pour la cavalerie, essentiellement, dans les pays du Sahel. Et c'est-à-dire au sud du Sahara, mais pas trop humide quand même, et où il n'y avait pas le risque de la mouche tsetse, de la maladie du sommeil, pour la cavalerie militaire, pour la parade, pour les grands chefs. Mais la grande transformation du commerce transsaharien, ça a été le dromadaire, qui a probablement été utilisé comme tel dans le Sahara par les Romains, et qui est devenu véritablement le moyen de communication généralement pratiqué à partir du 2e, 3e siècle de notre ère jusqu'à nos jours.
Gaëlle Beaujean, vous traitez aussi dans cette vitrine de ce qui concerne la circulation fluviale, puisqu'il y a des maquettes, des modèles de bateaux.
Alors oui, nous montrons un certain nombre de maquettes et nous évoquons différentes routes fluviales et maritimes. Là, nous sommes devant deux pirogues à balancier, deux maquettes de pirogues à balancier, l'une du Sri Lanka et l'autre de Madagascar, et qui permettent d'évoquer en fait le contact du monde du continent indien et de l'océan Pacifique également, puisque la pirogue à balancier vient de la mer de Chine et s'est diffusée par la circulation des hommes vers le sud-est asiatique, puis Madagascar et vers l'Océanie, donc la Polynésie notamment. Donc c'est des modèles de bateaux qu'on ne trouve pas ailleurs et qui lient différentes civilisations dont les mers ont été des vecteurs naturels de circulation.
Et on est à quelle époque là à peu près, Gaëlle Beaujean ou Catherine Cochry?
Au moins 1000 avant notre ère.
Oui, au moins 1000, sinon 1500. C'est dans le courant du deuxième millénaire avant notre ère. Il y a certainement des contacts. C'est l'interprétation de Philippe Beaujard, qui est le grand spécialiste de l'océan Indien et qui a écrit des ouvrages magistraux sur la question.
Donc là, ça donne vraiment une perspective très longue cette histoire de l'Afrique.
Nous sommes devant une fresque de Pompéi qui a été prêtée par le musée d'archéologie de Naples, donc qu'on date de 62 de notre ère, mais qui est probablement plus ancienne, qui était dans une villa d'une villa prestigieuse, où sont représentés des crocodiles, un hippopotame, des embarcations sur un fleuve et des hommes, alors des nains blancs et des nains noirs, avec comme thème iconographique appelé fresque nilotique, donc qui représente en fait le monde du Nil au plus loin qui pouvait être connu à cette époque, en l'occurrence par l'intermédiaire des Nubiens, puisque les Romains étaient en contact avec la Nubie, et la circulation des hommes d'Afrique centrale vers ces villes de Nubie. L'Afrique n'a jamais été déconnectée, enfin a toujours été connectée au monde.
Au reste du monde.
Alors la première vraiment source écrite sur en particulier cette pénétration par le Nil et vers le sud, c'est Hérodote au 5e siècle grec, donc au 5e siècle avant notre ère, qui est particulièrement utile parce qu'il précise très bien ce qu'il a vu de ses propres yeux, car il a beaucoup voyagé, de ce qu'il a entendu dire. Donc on sait ce qu'on disait aussi à l'époque sur ce qui se passait au-delà de la Nubie par le biais de ce très grand historien, en fait.
Alors on va continuer. Donc juste bon, vous présentez aussi toute une vitrine sur la connaissance hein, qu'on aurait du monde. Alors c'est tout ce qui concerne les cartes, évidemment, et les globes terrestres, pour ensuite arriver un petit peu à la question des villes, parce que qui dit circulation dit également fondation de villes, qui vont avoir plus ou moins de pouvoir selon les périodes. Hein. Alors on va s'avancer peut-être et choisir quelques-unes de ces villes.
Nous arrivons donc dans la section qui s'appelle les villes jalons des routes, où nous avons alors en termes d'œuvres des supports, des typologies très variées, la sculpture sur pierre, la sculpture en terre cuite. Nous avons également des masques en cuivre, des manuscrits anciens dont celui de Tombouctou, de la photographie. Donc on est sur des supports extrêmement variés. Donc là, nous nous trouvons face à une vitrine qui parle de la civilisation Sao. Donc Sao étant le nom d'un village où a été trouvé un ensemble d'objets, puis aussi tout un tas d'autres objets alentours. On est au Tchad, hein, on est au Cameroun, Nord Cameroun, région du lac Tchad. Et jusqu'à présent, donc il s'agit de terres cuites qui ont été trouvées dans le cadre de fouilles archéologiques dans les années 40-50, organisées par le Musée de l'Homme, puisque nous avons hérité de la collection du Musée de l'Homme, du laboratoire d'ethnologie du Musée de l'Homme. Et lors de ces fouilles, donc 5000 objets sont arrivés à Paris, un peu plus sont restés au Tchad, donc un musée a été construit là-bas à cette occasion. Et les archéologues qui ont travaillé sur cette collection dataient en fait la civilisation Sao du 9e au 14e siècle. Nous avons demandé dans le cadre de l'exposition de dater 10 objets sur les 5000 que nous avons, dont 2 que nous présentons. Et il se trouve que le petit hippopotame en terre cuite qui est présenté devant une grande statue, toujours en terre cuite, qui représente un chef qui a un baudrier et des colliers de perles. Donc ce petit hippopotame est daté entre du 2e avant notre ère ou 2e de notre ère. Donc ça remet complètement en question en fait l'histoire des civilisations de cette région. La civilisation Sao est contemporaine à celle de Méroé en Nubie, est contemporaine à celle de Nok au Nigeria, et contemporaine à celle de Djéné.
Catherine Cochry, sur...
Alors, dès qu'il y a circulation des hommes et des marchandises, sur de longues distances, il y a évidemment des escales, et ces escales sont devenues des villes. Et il y a eu donc des villes depuis toujours, puisqu'il y a toujours eu circulation des hommes en Afrique. Une des plus anciennes a été découverte par l'archéologie seulement dans les années 1980, enfin la publication date de 1980. Il s'agit en Afrique de l'Ouest, où on pensait qu'il n'y en avait pas non plus, de Djéné-Djéno. Djéné-Djéno se trouve à 3 km à peu près de la ville de Djéné, qui existe toujours sur le fleuve Niger. Et Djéné-Djéno a été une ville très importante, donc probablement le 4e siècle avant notre ère et le 8e, 9e siècle, surtout après notre ère. Très étendu et dominant certainement le commerce, je dirais, d'est en ouest et d'ouest en est par les fleuves Niger et Sénégal. Et Djenné-Djenno a perdu son importance quand les Berbères sont arrivés, les arabo-musulmans, mais la plupart des arabo-musulmans qui arrivaient au sud, c'était des caravaniers berbères, avec l'islam. Et probablement, ça c'est une hypothèse, ils n'ont pas voulu s'installer sur une terre païenne, donc ils se sont installés à 3 km de là, dans la ville de Djenné, qui est devenue très importante à partir du XIIe siècle et très connue par la construction d'une mosquée célèbre au XIVe siècle. Une ville que nous ne pouvons évoquer que par une belle photographie, mais qui est très importante et complètement inconnue des Européens, puisqu'elle a existé du 10e au milieu du 15e siècle. Les Portugais sont arrivés un peu après et ils n'ont connu que 300 km plus au nord de Zimbabwe, Mutapa, c'est-à-dire le Monomotapa, qui a succédé à Zimbabwe. Et Zimbabwe est célèbre par des murailles. C'est une zone où il y a beaucoup de schiste, de grès schisteux, donc des murailles qui sont donc représentées sur cette photo et qui montrent l'importance d'une ville qui était au centre d'une région très aurifère très importante.
Donc on est là, Catherine Cochry. Alors ce qui est intéressant,
on
c'est
qu'à chaque
Zimbabwe.
Fois,
voilà, vous mettez à chaque fois des cartes pour qu'on puisse se repérer, oui, ce qui est voilà, important. Donc on est au sud-est hein, de l'Afrique.
Oui, absolument, dans le Zimbabwe actuel, qui a pris son nom, ce nom à cause justement de Old Zimbabwe, de l'ancien Zimbabwe, qui est à 400 km de l'océan Indien, mais qui exportait l'or par Sofala, le port sur l'océan Indien.
Ah, commerce qui va être...
C'est l'équivalent, si vous voulez, de Djenné-Djenno au nord, ben c'était Zimbabwe au sud.
On change de section ?
Oui.
Alors là, on arrive dans une nouvelle partie de l'exposition. Qu'est-ce qui circule comme objet, comme produit? Qu'est-ce qui se vend? Qu'est-ce qui part et qu'est-ce qui revient en Afrique, d'une certaine manière, Catherine Cochry-Vidrovitch? Et donc, évidemment, il y a le sel, il y a l'or, il y a des perles, il y a de l'ivoire. Vous avez parlé du sel. Pourquoi le sel?
Oui, alors pourquoi le sel? Oui, c'est très important, le sel, parce que le sel est absolument indispensable pour le genre humain. Que le sel dans nos pays tempérés se trouve dans les légumineuses. Il y a très peu de légumineuses en Afrique, donc il y avait manque de sel. Il fallait donc que les Africains subsahariens trouvent le sel quelque part. Une des grandes sources de production du sel, évidemment, c'était les salines du Sahara. Et par conséquent, un des trafics majeurs tout au long de ce trafic transsaharien avec les dromadaires, c'était l'échange du sel apporté par les caravanes berbères contre l'or et les esclaves, principaux produits offerts par les grands souverains, précisément les grands souverains des siècles d'or des vallées du Niger et du Sénégal, Ghana, Mali, Sonrail, qui se sont succédés du 8e au 16e siècle finalement. Et donc le sel était transformé. Et les caravanes s'arrêtaient dans les salines, le sel était transformé, était taillé en barres de sel, grandes ou petites. Alors ce que nous exposons, ce sont des barres, il y a une petite barre de sel, mais qui vient de l'océan Indien. Les barres de sel du côté occidental étaient beaucoup plus grandes. Les dromadaires portaient deux grandes barres de sel de chaque côté de la selle. Et on en trouve d'ailleurs toujours, par exemple à Gao, sur le Niger, on voit toujours des barres de sel qui arrivent, qui probablement arrivent plutôt par camion que par dromadaire, mais ça existe toujours et c'est toujours très important.
Et puis alors bien sûr, on l'a évoqué, l'ivoire, parce que là vous faites alors voilà une belle vitrine sur la question de l'ivoire, et notamment sur le fait que justement les éléphants africains avaient des défenses beaucoup plus importantes que les éléphants indiens, par exemple, et que du coup, ils étaient très prisés. Et qu'en fait, il va y avoir exportation d'ivoire assez importante, Gaëlle Beaujean. Alors, c'est une magnifique pièce. Hein.
Oui. Alors, je ne vais pas pouvoir toutes les commenter, mais bon, pour la plus ancienne pièce en ivoire, il s'agit d'une amulette égyptienne que le Louvre nous a prêtée. Alors, la quantité d'ivoire est très réduite, mais c'est mêlé à de l'ébène. Donc, ça nous permet, sans le moindre doute, de pouvoir attribuer en fait cet objet à un objet d'origine africaine et donc ses liens, notamment par la route du Nil. Nous avons également, alors c'est un prêt absolument exceptionnel, du cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France, donc ancienne collection royale. Il s'agit de l'olifant de la Chartreuse des Portes. Enfin, c'est le nom qui lui est donné. La taille de l'ivoire est impressionnante. Donc, il s'agit bien d'un ivoire africain. Ça ne fait pas le moindre doute. Le style iconographique est italien, la région napolitaine. Et il a été trouvé en 1400 en France, dans l'Ain, avant d'être incorporé dans les collections royales. Donc déjà aussi, on a un parcours d'objets qui est assez étonnant. Et déjà, on a une route, ne serait-ce que du trajet la route de l'œuvre qui est intéressante. Et l'iconographie qui est magnifique. Enfin, c'est vraiment un des grands chefs-d'œuvre des collections nationales. D'autre part, en fait, l'ivoire aussi apparaît et devient...
À la mode,
connaît
un
succès... fabuleux à la Renaissance, dès que à partir de 1415-1440, quand les Portugais commencent à établir leurs forts commerciaux sur le littoral africain en Afrique de l'Ouest, donc la Côte d'Ivoire, qui s'appelait pas la Côte d'Ivoire, mais évidemment il y avait beaucoup d'ivoire. Et nous avons une salière sapi portugaise, donc plutôt Sierra Leone, qui est composée de trois parties, dont une partie est illustrée par des Portugais en armes. Une deuxième partie avec des motifs manuelins, donc de style portugais. Et une troisième partie au sommet qui représente une caravelle avec un poste de vigie où se trouve un personnage et une corde sur laquelle un autre personnage se rend en fait sur le poste de vigie. Donc c'est extrêmement raffiné. C'était très très prisé pendant la Renaissance. Les élites européennes... ne jurait pas que par les ivoires sculptés africains, mais en tout cas était très très demandeur et appréciait énormément l'esthétique de ces œuvres réalisées par des artistes africains.
Mais systématiquement Gaëlle Beaujean ou pas? Parce que du coup vous parliez tout à l'heure de la
Chartreuse de
le
portes.
Corps voilà, qui n'avait pas été forcément oui. réalisé par justement des artistes africains.
Disons qu'à la Renaissance les Portugais vont arriver avec notamment des gravures, avec une série d'objets, ils vont arriver aussi vêtus avec leurs fraises, et c'est ce qu'on voit sur cette salière. Et donc les artistes africains, les ivoiriers africains vont répondre à des commandes où on va leur demander d'incorporer une iconographie européenne. C'est une forme d'art pour touristes, d'une certaine
déjà.
Manière.
En fait, déjà.
Pour touristes de luxe.
Voilà. Alors là, c'est une virtuosité. Et ce sont les premières œuvres africaines qui prennent cette route des objets vers l'Europe.
Catherine Cochery.
Ce qu'on peut ajouter également, c'est l'importance de l'ivoire africain du côté de l'autre côté de l'Afrique, du côté de l'océan Indien, y compris pour l'Inde, qui a importé depuis très longtemps, on en a la preuve au moins depuis le Xe siècle, mais c'est probablement avant, de l'ivoire africain, les éléphants africains ayant des défenses beaucoup plus grande que les éléphants indiens, et en plus en Inde c'est seulement les mâles qui ont des petites défenses. Donc l'importation de l'ivoire africain en Inde a été très ancienne, et dans tous les pays du monde et en Europe aussi on trouve, et dans l'Antiquité on trouve des objets d'ivoire depuis très 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 longtemps, ce qui montre que non pas les éléphants, mais encore qu'il y a eu quelques éléphants dans des Romains qui ont franchi les Alpes.
On a des gravures, on a des textes.
Mais en tous les cas, que les défenses d'éléphants, elles, ont circulé dans le monde bien avant que les Européens ne viennent en Afrique, et que l'on trouve dans les trésors donc européens des objets d'ivoire dont on arrive quelquefois à connaître l'origine.
Et que ce commerce continue, en plus, sur la colonisation,
parce que Gaël disait justement que l'ivoire avait une grande vogue à la Renaissance, dans les trésors aussi des ducs de Bourgogne. Même avant, on trouve des objets d'ivoire extraordinaires. Mais il y a eu une vogue extraordinaire à la fin du 19e siècle qui a entamé, disons, le début du déficit en éléphants, parce que les chasses organisées par les Africains en Afrique pour vendre à leur clientèle internationale ont pris des proportions énormes à partir de la deuxième partie du 19e siècle et dans la première partie du 20e siècle.
Alors, on va continuer à déambuler dans ce couloir. En fait, vous avez choisi de présenter, donc on vient de parler de l'ivoire. Et puis ensuite, il y a une très belle vitrine sur les perles, évidemment. Hein, Gaël Beaujean, alors les perles voilà, qui servent de monnaie, qui sont précieuses, qui servent aussi pour décorer des parures. Et pareil, d'une même manière, qui font des allers-retours, qui viennent d'Égypte, après qui vont venir de Venise. Voilà, là, on a vraiment l'objet circulatoire où... par excellence, peut-être, je ne sais pas.
Alors, en fait, les perles sont les objets importés en Afrique. Tout à l'heure, nous parlions de l'ivoire qui était exporté. Donc là, on a un produit d'importation très recherché. Il faut s'imaginer en fait que chaque perle est unique, y compris les perles de Murano, dans la manière de les tailler, d'organiser les motifs. Il y a ces couleurs qui sont très très vives et qui sont des pigments qu'on ne trouve pas en Afrique. Donc dans cette vitrine, on a des perles en pâte de verre donc, qui proviennent du Moyen-Orient, qui sont du 8e siècle, qui ont été trouvées en Afrique de l'Ouest, des perles d'Égypte. Plus tard, en fait, donc les Européens se sont aperçus que c'était une monnaie très appréciée par les Africains, avec un terme péjoratif qui était verroterie. Nous avons également donc dans cette vitrine l'utilisation des perles sur des objets de prestige, tout comme nous avions l'ivoire sur les tables européennes. Également des perles en cornaline indienne qui attestent de la circulation entre l'Asie et l'Afrique. Enfin, deux derniers colliers. Un collier Peul, dont l'ambre provient de Guinée. Et au-dessus de ce magnifique collier Peul, un collier fait en pâte de verre recyclée, donc du verre recyclé et des perles de verre de Venise recyclées et recréées par des artistes verrotiers ghanéens.
Donc là, on a vraiment le syncrétisme... Voilà, dans toute sa totalité.
Fort moderne.
Fort moderne. Alors, Gaël Beaujean, là, on est devant les vitrines, donc, du cuivre, de l'or, bien sûr, et des monnaies aussi.
Des monnaies. En quelques mots, le métal était un enjeu commercial majeur, tout comme il l'est encore aujourd'hui. Donc nous sommes devant une vitrine sur le cuivre, alors le cuivre pur et les alliages cuivreux qui étaient utilisés comme monnaie, qu'on trouvait en Afrique centrale, qui étaient très recherchés en Afrique de l'Ouest. Du cuivre par exemple, on a un bol qui vient du Touareg du Niger, où on avait aussi, également au Niger du côté d'Agadez des mines de cuivre qui étaient très prisées vers le sud, notamment le Nigeria. Quant à l'or, nous avons donc là une vitrine plutôt d'or africain en Afrique, notamment d'Afrique du Nord. D'autre part, la vitrine, donc on a un très bel objet, une très belle statuette qu'on vient d'acquérir, qui est recouverte de plaques d'or, de plaques épaisses en or, qui vient de la région des lagunes de Côte d'Ivoire. Et pour les monnaies, donc là, on a une vitrine très dense, je n'irai pas dans le détail, mais on a du fer, notamment du fer qui était recherché en Chine, des textiles, des coris, enfin différentes... En fait, beaucoup de monnaies circulaient en Afrique. Et on peut aller jusqu'au contemporain où, pour nous, c'est les pièces frappées qui sont des monnaies. Aujourd'hui, l'Afrique a, je dirais, un pas d'avance, même plusieurs d'avance, puisque les monnaies, les échanges commerciaux peuvent se faire par téléphone portable.
Alors Catherine Kokrividrovitch, on arrive à tout ce qui concerne la question de la traite, hein, évidemment. Et là, y avoir des hommes qui vont circuler, des esclaves en l'occurrence, contre de l'or, entre différentes sociétés, hein, d'une certaine manière.
Oui, alors la traite des esclaves, c'est-à-dire le commerce des esclaves, nous le présentons essentiellement sous deux formes, sous la forme d'un multimédia qui tourne en permanence et que l'on peut regarder. La traite atlantique, nous avons quelques objets, évidemment, et puis nous avons essayé d'évoquer à quel point elle est devenue intense, en particulier au XVIIe et XVIIIe siècle, et les Portugais ont commencé donc à passer vers l'océan Indien dès le XVIe siècle. Ensuite, les Français sont arrivés à l'île de la Réunion. Il y a eu de l'esclavage dans des plantations de café, et il y a eu l'organisation d'un sultanat, de ce qu'on appelle le sultanat de Zanzibar au XVIIIe et au XIXe siècle, qui a organisé beaucoup de plantations, soit à Zanzibar même, ou à l'île Pemba, ou sur la côte orientale. Donc, du côté de l'océan Indien, vous avez eu un court-circuitage, si je puis dire, entre les traites de type arabo-musulmane et la traite portugaise, qui a été aussi très importante, et qui importait notamment des esclaves depuis la côte mozambicaine jusqu'en Afrique du Sud et jusqu'au Brésil.
Parce qu'en fait, comment ça se passe, Catherine Kokrividovitch? Les populations côtières vont chercher des esclaves à l'intérieur, et ça peut prendre beaucoup de temps, hein, parfois, ce cheminement, justement, ce retour sur la côte pour ensuite ce départ, cette traversée de l'Atlantique.
Alors, soyons précis, ce n'était pas les populations côtières, c'était des commerçants de la côte, souvent des chefs locaux ou régionaux, qui participaient au commerce international le plus rentable de l'époque, qui étaient donc les partenaires, en particulier au début des Portugais, qui en avaient bien besoin parce qu'ils étaient très peu nombreux, et qui allaient chercher des esclaves ou en faisaient apporter de zones étrangères, parce que l'Afrique n'est pas un État, l'Afrique est un continent avec beaucoup d'États, beaucoup de chefferies, qui pouvaient se faire la guerre. Les Portugais, entre autres, apportaient des armes qui ont armé justement des chefs pour aller chercher des esclaves ailleurs. Et c'est ainsi que sur la côte congolaise, les Portugais ont été les premiers, et sur la côte mozambicaine aussi, a été les premiers à pénétrer vers l'intérieur, à faire des accords avec des chefs de l'intérieur, en épousant des princesses aussi. Au XVIe siècle, ça se pratiquait de façon à créer des liens qui permettaient d'avoir des esclaves, et ces esclaves pouvaient venir effectivement de très loin. La traite atlantique est devenue particulièrement intensive au XVIIe, fin XVIIe, XVIIIe et début du XIXe siècle avec les plantations de canne à sucre, avec beaucoup d'échanges, soit dans le sud de l'Atlantique, entre le Brésil et la côte congolaise-angolaise, soit au nord où se pratiquait ce qu'on appelle communément la traite triangulaire, tandis qu'au sud, c'était plutôt carrément entre Brésil et Congo, surtout à partir de 1810-1820, où le Brésil devient indépendant, et vous avez des populations héritées des anciens esclaves du Brésil, qui sont devenus des commerçants à leur tour, qu'on appelle les Afro-Brésiliens, qui font l'aller-retour entre les deux continents, et tout ceci est imbriqué jusqu'au 19e siècle, jusqu'au milieu du 19e siècle.
Et là, c'est vrai que pour cette exposition, vous avez choisi effectivement plutôt soit des peintures, soit de l'iconographie, hein, pour voilà, des gravures pour présenter cette traite.
Oui, et on conclut sur le buste très célèbre réalisé par sculpté par Carpo, Pourquoi naître esclave. Donc, et on a au milieu de cet espace transversal, donc sur ce mur rouge qui est dédié à la traite atlantique, un ex-voto qui provient de la cathédrale de La Rochelle, qui est une peinture polychrome avec un cadre doré où on voit un bateau embarquant des hommes noirs qui demandent la protection en fait de Dieu. Donc on est dans un vocabulaire catholique et qui était destiné en fait tout simplement à protéger les marchands de La Rochelle dans le cadre de cette traite atlantique. Donc La Rochelle était l'un des grands ports de traite négrière en France, tout comme Nantes, Bordeaux, Lorient.
Donc il y a évidemment ce qui concerne les religions, le christianisme. On va l'aborder avec cette carte qui présente les routes religieuses à différents moments, hein, Gaëlle Beaujean. Donc là, on est au XVe siècle, par exemple.
Oui, alors, nous avons trois grandes cartes animées dans le parcours. Là, ici, nous sommes devant celle des routes religieuses. On a une grande partie assurée qui ne bouge pas, qui concerne les religions du terroir, donc les religions, enfin, qu'on a appelées les religions du terroir, les religions africaines, qui fabriquent aussi toute une série d'objets liturgiques en lien avec les ancêtres, avec la divination, le monde invisible, sous quelque forme que ce soit. Donc ces religions africaines du terroir sont maintenues du début à la fin de cette carte animée. Et on voit progressivement arriver donc, le judaïsme, donc, qui est associé notamment à la légende de la reine de Saba et du fils Ménélique qui a volé la table des lois. Donc 10e siècle avant notre ère, il s'installe en Éthiopie, donc le judaïsme africain dès le 10e siècle. Ensuite, nous abordons le christianisme, avec là de nouveau le christianisme qui se diffuse vers le nord de l'Égypte, du côté copte, et qui va descendre ensuite, alors en lien avec Constantinople, mais vers l'Éthiopie. Donc c'est le christianisme copte orthodoxe. Donc pour poursuivre chronologiquement, le prophète à Médina et à la Mecque va trouver refuge chez les Éthiopiens, et c'est en Éthiopie que l'islam s'implante dès le 8e siècle et va après se diffuser par les Arabes au nord de l'Afrique, et des conversions vont avoir lieu dans la bande sahélienne au 9e, 10e, 11e siècle. La deuxième grande vague d'islamisation en fait, de l'Afrique va arriver au 19e siècle. Le christianisme, enfin, alors le christianisme avec le catholicisme, le roi du Congo se fait baptiser en 1491 et on est dans quasiment l'unique région africaine où le catholicisme s'implante. Les protestants arrivent au sud de l'Afrique au XVIIIe siècle et une grande vague, là aussi liée, alors cette fois à la colonisation, de christianisation, donc catholique, protestant, puis évangéliste, etc., 19e, 20e siècle.
Et c'est vrai que le catholicisme implanté à partir du roi du Congo a quand même diffusé pas mal jusqu'au 18e siècle, on en trouve des traces. Il y a d'ailleurs pas mal de crucifix qui datent du 16e siècle. Et le petit-fils du roi du Congo qui s'était fait baptiser est le premier évêque africain qui a été envoyé à Rome et qui est revenu en Afrique à la fin de sa vie.
Et puis alors ensuite, dernière vague, c'est les presbytériens, les évangélistes,
alors, bien
qui
sûr,
arrivent des États-Unis.
Voilà. Les presbytériens et les évangélistes, ce sont des mouvements alors, qui sont très souvent importés par des missionnaires américains et qui ont une grande vague, disons, dans les périodes de crise. Et une des grandes périodes de crise, c'est les débuts de la colonisation, c'est les années 1900-1914, juste avant la Première Guerre mondiale, où vous avez les premières vagues de religions qu'on appelait les religions éthiopiennes, qui en fait se développent en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est sous des noms différents, qui relèvent aussi des adventistes du septième jour et qui ont connu un renouveau, enfin une renaissance dans les période de crise tout à fait contemporaine
aujourd'hui,
aujourd'hui avec ce qu'on appelle les évangélistes pentecôtistes qui se généralisent pratiquement sur toutes les côtes, dans toutes les zones de christianisme.
Alors, inversement, les religions africaines sont aussi sorties du continent. Alors, dans le cadre de la dramatique traite atlantique, où des religions sous un vernis catholique ont pu se maintenir, c'est le cas du vaudou, qui mélange le vaudou du Bénin actuel et du Bénin Togo actuel et des religions Congo. Le candomblé, qui en fait est lié aux orishas du Nigeria, Et on peut évoquer, alors entre autres choses, hein, parce que là, bon, pour le camp d'Omblé, il s'agit du Brésil, et on peut évoquer aussi des religions contemporaines qui vont placer en fait l'océan Atlantique comme un continent, où sur le littoral de ce continent, on aurait des religions africaines et africaines-américaines liées à Mamiwata, qui est une divinité des mers et dont l'iconographie est commune autour d'une charmeuse de serpent. On peut avoir l'équivalent avec la sirène.
Des bouleversements politiques internes au XIXe siècle. À l'ouest, les empires musulmans d'Ousmane d'Anfodio, de Samori, d'El Adjomar puis Amadou. Au sud, le royaume militaire Zoulou de Chaka. Il y eut aussi des états qui résistèrent, comme le royaume du Dahomey de Béhanza. Les méthodes étaient brutales de part et d'autre. Les conquêtes provoquèrent pillages et butins de guerre.
Alors là, on est dans la section qui concerne les routes coloniales. Hein, voilà, on a cheminé chronologiquement pour le coup. Alors, il y a à la fois évidemment des panneaux sculptés, des bustes, des photographies qui évoquent
beaucoup de photographies
qui évoquent la colonisation. Et là, on est devant une tapisserie, une tenture.
Oui, une tenture. Alors, avant de parler de la tenture, je vais évoquer le film qui est visible dans une partie de l'exposition, un film de 20 minutes qui a été conçu pour l'exposition, qui est très original, qui est fait avec des bandes de l'époque, surtout des années 1950, qui rappelle justement l'histoire, ce film on l'a appelé « La petite histoire de la colonisation ». Cela nous a fait gagner des vitrines pour ne pas mettre trop d'objets sur la colonisation, puisqu'il y a ce film de 20 minutes. Là, je fais un commentaire sur cette tenture, cette toile de peinture populaire, qui était très fréquente du temps de l'Empire, avant la chute de l'empereur, dans les rues d'Addis Abeba pour célébrer l'Empire. La bataille d'Adoua est très célèbre en Afrique parce que en 1896, l'empereur d'Éthiopie a réuni à peu près 100 000 soldats de tout l'Empire. On connaît les chiffres parce qu'il y a des sources. Et il a empêcher les Italiens de pénétrer en Éthiopie.
Donc c'est une révolte,
c'est la résistance coloniale. C'est-à-dire, c'est une époque où aucun État africain, quel qu'il soit, que ce soit une chefferie ou que ce soit un empire, n'a pu résister à l'invasion coloniale et à l'occupation coloniale, sauf l'Éthiopie. C'est la bataille 1896. Où l'Éthiopie est restée indépendante et c'est à la veille de la guerre de 14, il y a seulement deux États, dans toute l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord, il y a seulement deux États indépendants, l'Éthiopie, grâce à la bataille d'Adoua, et c'est pourquoi elle est très populaire, et le petit Libéria qui avait été créé pour quand les États-Unis, au milieu du 19e siècle, voulaient se débarrasser de leurs esclaves affranchis et qui est devenu une petite république dans les années 1840.
Pour conclure cette exposition, Gaël Beaujean, vous avez choisi, alors même vous l'intitulez épilogue hein, sur la nation des artistes. Voilà, une autre circulation, c'est celle des arts et des artistes. Alors à travers une galerie qui présente entre autres des peintures, des objets d'art,
de l'art contemporain,
des photos.
Alors en fait, cet épilogue est intimement lié à la route coloniale puisque on a un ensemble de vitrines, un ensemble d'objets sur la route des objets qui explique comment sont arrivés ces objets africains en Europe, en Amérique, Ils n'arrivent pas, alors on parlait tout à l'heure de l'art en ivoire portugais, mais entre la Renaissance et le 19e siècle, il y a un mépris total, complet pour les fétiches africains. Et on redécouvre, à travers les explorations puis la colonisation, tous ces objets africains qui vont, par centaines de milliers, partir vers l'Europe et ensuite vers les États-Unis. Oui, dès la moitié du 19e siècle, les artistes visuels européens sont en rupture ou cherchent à rompre avec l'académisme. Et puis, au fil du temps, arrivent ces objets qui vont répondre en fait à leurs questions, ou en tout cas les conforter dans leurs propres intuitions et leurs propres recherches. Et donc, c'est ce qu'on appelle la rencontre avec l'art moderne, pour arriver ensuite vers cette nation des artistes, puisque inversement, les objets européens, les œuvres européennes, les techniques comme la peinture sur toile, la photographie, vont se diffuser vers le continent africain. Il va y avoir des écoles, des beaux-arts aussi, et les artistes donc africains vont s'emparer de ces nouveaux médiums, comme n'importe quel artiste européen s'empare de médiums ou de formes africaines. Et en fait, contrairement, il y a colonisation nulle part en ce qui concerne les artistes, puisqu'il y a une reconnaissance mutuelle, une admiration d'un côté comme de l'autre, et les frontières sont complètement transcendées. Donc l'idée de la dernière, de l'épilogue, c'est de à la fois terminer sur une note extrêmement, je dirais, positive. En tout cas, voilà, les arts visuels sont là. On a une peinture historique aussi qui dénonce cette histoire coloniale, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire du côté africain, du côté, alors je dirais du côté français, je pense à l'œuvre de Kader Attia, qui est franco-algérien, qui est d'abord français, où on a justement cette violence qui est exprimée à travers les images des gueules cassées de la guerre 14-18, qui nous renvoie aussi aux violences coloniales, aux violences de l'esclavage, et qui le met en rapport dans une approche réellement esthétique avec les objets réparés et le thème, le titre de cette œuvre est la réparation. Et on termine donc l'exposition sur la réparation.
Merci Catherine Kokrividrovitch, merci Gaëlle Beaujean pour cette visite donc au Quai Branly dans l'exposition qui s'intitule L'Afrique des routes. Merci à toutes les deux. Merci.
Ou réécouter tout ou partie de cette série d'émissions consacrée aux expositions d'histoire que l'on peut voir ces temps-ci dans la capitale à Paris, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. La prise de son était assurée par Yvan Turc et la réalisation par Françoise Camard. Demain, comme tous les vendredis, une émission consacrée à l'actualité de l'histoire.